Une semaine formidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotion avec les offres Canal+.
Bonsoir à tous, bienvenue dans une semaine formidable pour décrypter l'actualité sportive de la semaine. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année aux commandes de cette émission. Pour débuter l'année avec moi, j'ai le plaisir de recevoir Sébastien Baldovini, Jean-Louis Guépy et Michel Quintin. Bonsoir messieurs.
Bonsoir. Bonsoir.
Au sommaire de cette émission, donc de la voile avec l'arrivée du Vendée Globe, du golf avec les premiers tournois de l'année et du tennis avec l'Open d'Australie. Nous commenterons ensuite l'actualité sportive de la semaine et nous terminerons par les coups de cœur de nos invités. Michel Quintin, on va commencer par vous. Charlie Dalin, le Havrais, le Normand, est arrivé mardi dernier en fin d'après-midi pour nous au Sable d'Olonne. Il a gagné le Vendée Globe. C'est pas la première fois qu'il coupait la ligne d'arriver le premier, mais cette fois-ci, il a gagné.
Voilà, c'est un beau retour des choses. C'est-à-dire qu'il y a 4 ans, il avait franchi la ligne d'arrivée en premier, mais par le biais des compensations. Donc c'est Yannick Bestaven qui avait gagné de 2h30.
C'est ça, parce qu'il avait secouru autre concurrent.
Voilà, il s'était dérouté pour aller essayer de secourir et de participer aux recherches pour escoffier. Et donc, il avait eu des compensations, ce qui est tout à fait normal. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour quelqu'un d'arriver en premier sur la ligne et de ne pas remporter l'épreuve. Donc là, c'est chose faite. En plus, avec la manière, avec un nouveau record et avec une performance qui est, en tout cas, pas que pour lui, pour les 3 premiers, qui est vraiment hallucinante.
Quoi. Voilà, c'est ça. Et lui améliore de presque un petit peu moins de 10 jours la performance d'Armel Lecléache. Mais le deuxième et le troisième sont aussi à 65-66 jours, donc on est sur des performances qui sont quand même exceptionnelles.
Performances exceptionnelles, oui, parce que ils ont vraiment eu... ils ont été très performants, ils ont eu la réussite qu'il fallait avec des systèmes météo qui se sont enchaînés et qui leur ont permis justement de faire très rapidement ce tour du monde. Il y en a encore qui sont pas encore passé le Cap Horn les derniers, donc c'est encore très loin. Et là, même des bateaux qui faisait figure de favoris aussi, qui consistait parmi les favoris comme Bayou avec Charal ou d'autres. Sont en approche, on va dire, mais ils sont au niveau entre les Açores et les Canaries, donc ils sont encore loin de l'arrivée, quoi. Donc ça montre la différence qu'ils ont réussi à créer les 3 premiers. Et donc pour Charlie Dalin, c'est vraiment une performance exceptionnelle.
Alors qu'est-ce qui explique ces écarts qu'il peut y avoir entre les tout premiers et, alors je ne vais pas dire les derniers, mais en tout cas déjà les poursuivants, parce qu'il y a quand même effectivement la flotte est extrêmement étirée du coup là.
Ouais, alors c'est vrai qu'avec des bateaux qui sont, qui ont des performances qui sont pas tout à fait égales, mais qui sont assez rapprochés, qui se rapprochent. Après, c'est la gestion de la course, gestion de l'effort. C'est il y avait un enjeu qui était majeur, c'est sur la descente de l'Atlantique Sud pour arriver à Cape Town, au bas de l'Afrique du Sud. Il fallait arriver dans les premiers pour pouvoir bénéficier des systèmes météo en premier et créer un système météo d'avance. C'est ce qui s'est passé on voit que les 3 premiers étaient c'était le tiercé gagnant
quasiment dès le début,
quasiment à la descente à la pointe de l'Afrique, et ça s'est enchaîné derrière et les écarts se sont creusés avec des prises de risques importantes pour Charlie Dalin et Sébastien Simon dans l'océan Indien. Et puis, un beau retour de Johan Richomme, qui est revenu fort en dessous de la Nouvelle-Zélande. Après, ça s'est enchaîné. Ils se sont poussés les uns et les autres parce que ça allait très vite. Et donc, ils ont poussé le curseur très haut parce que c'est des bateaux qui peuvent aller très vite, mais sur lesquels ils sont obligés justement de mettre un petit peu, de temporiser un petit peu.
Pour pas casser.
Et là, ce qu'il disait, la seule... avarie qu'il a eu vraiment, à part une déchirure de voile. Mais sur le bateau, au niveau structurel, Charlie Dalin, c'est quand il a vraiment poussé très 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 fort pour essayer de tenir Johan Richomme. Et au même moment, Johan Richomme disait j'ai choqué à ce moment-là, et à un moment, ça allait trop vite. Donc les bateaux, ils souffrent dans des conditions, dans la mer formée, ils peuvent souffrir. Et donc, c'est la gestion de l'effort pour aussi bien mécanique que humaine. Il a été meilleur. Il a été meilleur peut-être aussi par rapport aux conditions météo, et son bateau n'était pas tout à fait le même que celui de Johan Richomme. Johan Richomme avait privilégié justement, d'être performant dans les mers du Sud, dans une mer très formée au portant. Et Charlie Dalin a fait un bateau plus polyvalent, très puissant, Et donc, sur la remontée depuis l'Atlantique, il a été un petit peu plus performant, mais ça s'est joué à pas grand-chose.
Alors, on l'a vu, ils disent tous à peu près la même chose. On a l'impression d'être parti à deux jours, ce qui est assez étonnant quand on sait que ça fait quand même un peu plus de deux mois. Combien d'heures ils dorment par nuit en moyenne ?
Alors ça, c'est une gestion qui est compliquée. Hein. C'est-à-dire que suivant les conditions, des fois, ils ne dorment pas pendant 36-48 heures. Et après, c'est des micro-siestes. Ils arrivent à récupérer sur 20 minutes, une demi-heure, quand les conditions le permettent, 2 heures. Et puis quand vraiment il y a un calme plat, ils essayent d'aller un petit peu au-delà de 2 heures. Mais voilà, c'est plusieurs fois dans la journée, c'est de la récupération. Et, ça se travaille. Mais c'est tenir ça pendant aussi longtemps qui est phénoménal.
C'est quand même des performances, en fait, qu'on met, à mon sens, pas assez en avant, parce que c'est quand même... Il faut tenir le bateau, il faut regarder où ça va, il faut éviter les avaries, que ce soit sur le bateau ou ce qu'il peut y avoir en mer. Et donc on se dit que c'est finalement un travail de tous les instants. Et donc, il faut quand même être très vigilant.
La moindre faute, ça peut être l'arrêt de la course, parce qu'une avarie peut être... fatal. Donc c'est vrai que ils sont sur le fil du rasoir des fois quand ils poussent le bateau, et c'est vrai que les heures de sommeil là c'est compliqué, et surtout que les bateaux sont très inconfortables, ils tapent beaucoup, donc même s'ils ont amélioré justement au niveau ergonomique sur ce Vendée Globe, ils ont beaucoup travaillé sur cette partie de confort justement, donc avec des fauteuils qui sont bien, on va dire,
rembourrés,
amortisseurs, tout, pour encaisser les chocs, mais c'est vrai que c'est pas facile de dormir dans ces conditions.
Bon, qu'est-ce qu'on peut retenir du coup de cette édition, au-delà de ce record, je vais rappeler, 64 jours, 19 heures, 22 minutes et 49 secondes pour être précis.
La course, elle est loin d'être finie, parce qu'elle est finie pour les trois premiers, mais derrière, ça bataille dure pour la quatrième place, et en plus, prochain groupe qui va arriver, là, ils vont arriver dans des conditions, justement, il y a des bateaux qui sont à peu près espacés de 800 000 entre le 4e et le 13e. Et là, ils vont arriver avec des conditions très compliquées. Donc, il y a une grosse dépression qui est sur leur chemin. Et donc, ça va être... La course n'est pas terminée pour tout le monde, et loin de là. Donc, c'est encore passionnant. Mais en gros, ils ne savent pas trop s'il faut appuyer pour essayer de passer avant la dépression, s'il faut ralentir et prendre la suivante qui peut être encore plus méchante.
Au risque de casser à quelques encablures de l'arrivée.
Voilà, donc c'est compliqué. On a vu des Vendée Globe avec des bateaux qui, juste avant l'arrivée, perdaient leur quille ou avaient des avaries majeures jusqu'à démater. Donc, il faut qu'ils fassent attention. Les bateaux sont fatigués, les hommes sont fatigués. Donc la fin de course est compliquée pour tous les bateaux. Il reste encore beaucoup de bateaux en course. Il y en a qui sont encore, ils sont pas encore passés le cap.
Donc, qu'est-ce qu'on retient au-delà de la victoire, le record, la vitesse,
la victoire, et puis c'est vrai la belle bagarre qu'il y a eu, parce que ça a été avec les trois premiers, ça a été une bagarre.
Oui, au niveau du cap de Bonne-Espérance, ils étaient même quatre.
Et donc là, il y a des enseignements à tirer. C'est aussi les bateaux sont vraiment de plus en plus performants et de plus en plus fiables, parce que il y a très peu d'abandons, ce qui est étonnant par rapport aux autres. Avec 40 skippers au départ, on pensait qu'il y aurait quand même beaucoup plus d'abandons, et les bateaux résistent, donc ça veut dire qu'ils ont été fiabilisés et ils vont vite, mais en plus ils sont maintenant costauds, quoi.
Bon, donc on l'a vu aussi, ils ont en tout cas Charlie Dalin a hâte d'être dans 4 ans pour la prochaine édition. Il est vraiment il est chaud bouillant.
Ouais, alors je sais pas s'il l'a annoncé ou pas.
Il l'a vu.
Ah ouais, donc il y en a d'autres qui sont aussi chauds. Hein. Johan Richomme, il est chaud aussi, puisque il termine pas loin derrière, et c'est vrai que il pouvait aussi prétendre. Et puis Sébastien Simon qui a terminé quand même, qui a fait quasiment la moitié du son tour du monde avec un foil en moins, donc qui était vraiment pénalisé sur un bord, donc qui termine pas très loin. Il va y avoir une belle bataille encore. Et puis il y en a d'autres, ceux qui sont fait distancer par les systèmes météo, qui vont vouloir revenir et essayer de, De prendre leur revanche.
Pour terminer sur ce sujet, combien de temps il faut pour préparer un bateau comme ça? C'est un projet de 4 ans, c'est un peu comme quand on prépare les Jeux Olympiques finalement.
Ouais, c'est un projet de 3-4 ans. Ils vont s'y remettre. Ceux qui, en tout cas, qui doivent construire un nouveau bateau vont s'y mettre. Il y a déjà des bateaux qui sont là.
En construction pour la prochaine édition.
En construction, qui sont déjà bien avancés pour la prochaine édition.
Bon, eh bien, on suivra ça avec plaisir. Merci Michel. On va revenir sur Terre et sur les greens de golf avec Jean-Louis Guépy. Donc plusieurs tournois pour démarrer cette saison 2025, Jean-Louis. Dont l'American Express sur le PGA Tour avec Victor Pérez qui avait passé le cut et Rosner qui n'avait pas passé le cut, qui était loin du cut, 139e. On rappelle que Rosner est rookie sur cette saison du PGA Tour. Comment ça s'est terminé cet American Express?
Donc l'American Express à La Quinta en Californie, gagné par l'Autrichien qui joue sa place en Ryder Cup pour septembre, Straka, à moins 25. Deuxième, Justin Thomas qui revient après quelques années de galère où il n'était pas à son niveau. C'est quand même un joueur qui a gagné 3 majeurs et qui accroche une belle deuxième place en début de saison. Comme ça, c'est bien de marquer des points. Et troisième place, Justin Lower et Jason Day. L'Australien Jason Day qui remonte aussi le bout du nez. C'est le début de l'année, hein. Ils viennent de jouer 2 semaines à Hawaï. Hawaï a été aussi le début du Champions Tour, donc les plus de 50 ans. Tournoi de chauffe gagné par Ernie Els. Et deuxième place, 67 ans, Bernard Langer. Et Miguel Angel Jiménez.
Il n'avait pas dit qu'il prenait sa retraite?
Il y en a plein qui disent qu'ils prennent leur retraite puis qui sont tellement bons qu'ils continuent à jouer parce qu'ils aiment ça et c'est leur vie, quoi.
Mais il me semblait qu'on en avait parlé dans cette émission de Bernard Langer et du fait qu'il a arrêté.
Voilà, donc
il n'arrête plus.
On remarque qu'à chaque fois on en parle et à chaque fois il est encore là et il occupe le haut du tableau. Voilà, Dubaï.
Dubaï, voilà, j'allais y venir. Il y a le désert classique.
Le DP World Tour a commencé sa saison en Afrique du Sud il y a un mois.
Avec pas mal de Français.
Donc le DP World Tour Dubaï, gagné par Tyrell Hatton. Vous connaissez Tyrell Hatton, Olivier?
Non, pas du tout.
Donc c'est Benoît Paire en anglais.
Oh putain.
C'est un joueur, quand il joue, il va jusqu'au bout. Il a le même tempérament. C'est un joueur qui est très charismatique, très populaire. Et il a gagné le tournoi à Dubaï. C'est son 5e Rolex Series à moins 15. Deuxième, un Néo-Zélandais pas trop connu, mais qui joue quand même très bien au golf. Daniel Hillier à moins 14. Et troisième, Laurie Canter, un autre Anglais. Souvent, Dubaï, c'est le fief des Anglais, hein, ou des Irlandais, Écossais. Enfin, c'est souvent
des Britanniques, donc.
Des Britanniques qui sont là. Ils sont surtout très contents de jouer au soleil, alors qu'en Europe, c'est très mauvais. McIlroy, qui a fait un tournoi moyen, qui fait quatrième. Voilà, il est en chauffe. Et...
Moyen pour McIlroy, donc.
Voilà, exactement. Et notre petit Français, c'est tout à fait amical ce que je dis, Julien Guerrier, qui termine 21e à moins 5.
Ok, il y avait deux autres Français, Lorenzo Vara, qui était 19e avant le troisième tour à moins 5.
Voilà, je crois qu'il a fait plus 2 au dernier tour, il termine 35e. Enfin, lui, il a besoin de jouer, il a une exemption médicale. Exemption médicale, ça veut dire qu'en fait, il a un certain nombre de tournois à pouvoir jouer en tenant compte des points de l'année dernière. C'est-à-dire que sa saison va être additionnée sur 2 saisons. Et on va voir si, avec ces points-là, il sera dans les 125 premiers.
C'est un petit peu le principe du classement protégé, en fait.
Voilà. C'est okay. la medical exemption du circuit.
Et le dernier Français qui était engagé sur ce DP World Tour, c'était Romain Langas, qui était 50e avant le dernier jour.
Voilà. Je sors mon joker. Je n'ai pas vu ce qu'il a fait.
OK.
Mais pareil, c'est des joueurs qui sont très bons, qui sont en chauffe. La saison est très, très longue.
Ne fait que commencer.
Voilà.
Alors justement, puisqu'on parle de début de saison, quid de Mathieu Pavon, puisqu'on a forcément envie de voir presque notre meilleur golfeur français. Où va-t-il commencer sa saison?
Alors Mathieu Pavon a joué un tournoi exhibition la semaine dernière en équipe dans les Émirats. Il a sorti le meilleur match de l'équipe parce que c'était l'Europe continentale contre le reste de l'Europe. L'Europe britannique, pardon. L'Europe britannique a fait une démonstration, a mis une savonnée à tout le monde. Et le seul qui a sorti, on va dire, du gros jeu, c'est Mathieu. Donc on va le voir normalement la semaine prochaine. Il va défendre son titre aux États-Unis, le tournoi qu'il avait gagné. Donc je ne me fais pas de soucis pour lui, parce que c'est un garçon qui est bien structuré, qui sait organiser ses saisons maintenant. Et peut-être que ça sera dur de refaire la même saison, hein, parce que...
Ça va être la saison de la confirmation, effectivement. C'est ce qu'il y a de plus compliqué, finalement.
Voilà. Et quand on vient de faire une grosse saison, avec les places qu'il a faites en majeur, au Masters, à l'US Open et au British, il faudra confirmer. Mais Mathieu est dans les 30 meilleurs joueurs du monde maintenant, et je pense qu'il sait faire.
Bon, eh bien, on va attendre ça avec impatience. Quel est le premier grand rendez-vous de l'année, le premier grand chelem ?
Grand chelem, ça va être le Masters, deuxième semaine d'avril. Donc tous ces joueurs-là sont en préparation pour les grosses échéances.
Ok. Et quels sont les joueurs attendus cette année, du coup ? Est-ce qu'on a des petits nouveaux qui vont arriver ? On a des joueurs qu'on attend, donc, comme Pavon, la confirmation ? Et puis, on va dire les valeurs sûres, comme Scheffler, par exemple ?
Voilà, Scheffler, ça va être la grosse confirmation à faire, parce que quand vous faites 7 victoires, plus les Jeux Olympiques, sur la saison 2024, avec un montant de gains dans la... Je ne dirai pas le montant.
On peut le dire, 62 millions de dollars.
62 millions de dollars de gains sur la saison. Ça va être dur à égaler. Donc, Scheffler, McIlroy, tous les Américains, Schauffele, enfin, la saison va... On va savoir mi-mars qui est dans le coup ou pas.
Qui est en forme.
Voilà.
Avec déjà des favoris par rapport à ce premier grand chelem à Augusta pour le Masters.
C'est un peu tôt. Le golf, c'est ça va, ça vient. Et vous avez des joueurs qui sont 50, 60e mondial, qui sortent du paquet à un moment où on les attend pas. Et c'est ça qui fait la beauté de ce sport. C'est très difficile, en fait, d'être régulier. Et les têtes de série sont souvent menacées par ces joueurs-là.
Donc on va attendre ces premiers tournois pour savoir quels sont les joueurs en forme. Sachant qu'ils vont tous démarrer dans les semaines qui arrivent, là.
Voilà.
Cette semaine ou la semaine prochaine.
Il y en a certains qui ont démarré cette semaine. Le début de saison, c'est février pour eux.
Bon. Eh bien, on va suivre ça avec attention, et on va passer de la petite balle blanche à la petite balle jaune. Avec vous, Sébastien Baldovini. Donc, la première levée du Grand Chelem, elle est là pour ce qui est du tennis à Melbourne, comme d'habitude, première quinzaine de janvier. Alors, qu'est-ce qu'on peut noter de cette première semaine ? Il y a pas mal de faits marquants, finalement.
Oui, comme d'habitude, c'est le début de la saison. Il y a les faits marquants, c'est que les Français, on va dire les Françaises, elles ont été inexistantes.
Une seule victoire sur l'ensemble du tournoi pour Gracheva.
Oui, et encore, elle est pas très très. Elle vient juste d'arriver. Elle vient juste d'être naturalisée. Donc, on peut dire que au niveau de la fédération, je pense qu'ils ont. Ça fait quelques années qu'ils travaillent dessus, mais il va y avoir encore du travail. Et puis chez les garçons, on a des bonnes surprises. On a quand même quelques têtes de série qui sont tombées d'entrée.
C'est ça, Rude éliminé au deuxième tour par Mensik, ouais, Medvedev éliminé au deuxième tour par Tien, Fritz éliminé donc par Monfils au troisième tour, et puis vous venez de le dire, Tsitsipas éliminé dès le premier tour lui aussi.
Ouais.
Donc effectivement, ça a fait un petit peu de ménage dans le tableau, ce qui est assez inhabituel chez les hommes.
Oui, surtout qu'il y en a qui ont été finalistes par le passé sur ce tournoi-là, donc... Donc voilà, c'est bien, il y a plein de jeunes, on a vu qu'il y a, il y a beaucoup d'Américains.
C'est ça, 5 Américains en 8e, beaucoup de jeunes.
Beaucoup de jeunes, ça sort en plus du circuit universitaire, qui a un très très bon niveau, puisqu'on voit que Shelton, qui joue notre Français le dernier aujourd'hui, et là je regardais, il s'était encore à 5 partout.
C'est ça.
Donc ça va être un beau match. Je pense que Gaël, c'est Taylor Fritz qui disait que il était injouable. Donc si physiquement ça tient, il a un bon tableau, on va dire, puisqu'il prendra que en demi-finale une grosse tête. Après, c'est toujours ces tournois-là sont ouverts, même si on voit que Zverev et Alcaraz sont un tout petit peu au-dessus.
Avec Sinner, effectivement, ouais, c'est quand même les trois favoris.
C'est solide, comme on dit. La Sinner a breaké contre Runeux,
ouais.
Ouais, donc je pense que c'est plié, parce qu'après, avec le service qu'il a derrière, ça va être compliqué. Donc on a un beau Djokovic-Alcaraz.
En quart de finale demain.
Je pense que Djokovic n'a pas quand même n'a pas donné son dernier mot. On l'a vu là au dernier tour, il joue le Tchèque Lechka.
Lechka, oui, ouais, absolument.
Qui pour moi venait de gagner Brisbane, il était en forme, il avait un petit peu en plus ce petit côté chanceux. Parce que Brisbane, quand même,
il prend deux abandons sur la demi-finale et la finale, effectivement.
Et là, au premier tour, il était en forme. Et puis bon, il a pris trois petits sets et on a vu un Djoko solide, même physiquement.
C'est ça, on l'a vu très dominateur. Hein. Lechka a été dominé dès le deuxième coup de raquette, quasiment. Ouais. Donc c'était très compliqué. Hein.
Alors que les premiers tours de Djoko, on voit, il monte en puissance. Donc on va voir, ça va faire un beau match demain là, contre Alcaraz, donc
on rappelle qu'il est en quête
des générations.
D'un 25e Grand Chelem. Ouais. Et puis que accessoirement, il a dans son box aujourd'hui un certain Andy Murray. Alors est-ce que ça lui apporte quelque chose? C'est lui qui est vraiment allé chercher Andy Murray. Hein.
Oui, je pense que techniquement non, ça lui apporte pas, mais mentalement, il doit tirer ce qu'il y a de bien de Andy Murray. On sait qu'Andy Murray il lâchait rien. Donc la positivité, qui revient aussi de blessure, donc Andy Murray a été beaucoup blessé, donc il sait ce que c'est pour la remise en question et tout. Je pense que c'est un bon plus. Il a eu Boris Becker, il a eu Goran, à chaque fois il va chercher ce côté-là, et pourquoi pas, hein, ça serait beau qu'il gagne ce tournoi-là, hein, surtout à son âge. Hein.
Alors, ouais, 38 ans cette année, on rappelle.
Comme Gaël,
donc c'est une partie des plus vieux du circuit désormais. Donc on a parlé de la jeune garde américaine, on va peut-être faire un petit focus dessus. 5 Américains en 8e, donc Mikkelsen, 19 ans, oui. Tien, même s'il est en train de perdre contre Sonego,
oui.
19 ans aussi. Donc il y a vraiment une génération, Fritz, et on considère presque comme un vieux aujourd'hui, mais il n'a que 23 ans.
Oui, j'allais dire, il est jeune.
Donc ça fait quelques années qu'il est sur le circuit, mais on a vraiment une nouvelle génération de joueurs américains qui, comme vous l'avez dit, est passée par la filière universitaire, ouais. qui visiblement paye.
Oui, et puis ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu les Américains autant dans le top 50, donc ça arrive, c'est très bien. Ils sont remis en question, un peu comme les Australiens qui à un moment n'avaient plus rien. Puis là, on en voit, il y en a quand même pas mal. Bon, ils sont pas encore au niveau des Américains, mais je trouve que c'est très bien. Ça change un peu. Et puis là, il y a presque plus le Big Four. Donc il va falloir que se remette un peu en. Il y a des places à prendre, entre guillemets.
On est sur la un peu une phase de transition entre ceux qui n'ont pas saisi leur chance après la génération Federer, ouais. Nadal, comme Zverev, comme Tsitsipas, voilà, comme Ruud, qui sont comme Medvedev, dont on sent que ça commence à coincer un peu en grand chelem.
Oui, tout à fait. Puis ils ont, en fin de compte, tout est jouable. Avant, avec le Federer, les Nadal, c'était quand même un petit peu moins jouable. Il fallait attendre soit une blessure, soit vraiment un... Là, je trouve que ils ont à peu près tous le même niveau. Bon, là, Sinner, en ce moment, il est au-dessus, mais il va falloir qu'il confirme.
Il est moins dominateur qu'il ne l'était l'an dernier,
voilà,
malgré tout.
Il commence à perdre des sets. Après, je pense qu'il est quand même, épié par ses adversaires. Et puis maintenant, on sait qu'ils travaillent tous avec la vidéo, avec tout. Ça va. Je pense que ça va. On va sortir de la monotomie d'avoir toujours le même qui gagne les tournois du Grand Chelem, et je pense qu'à ce tournoi du Grand Chelem, ça sera pas, je vois pas Sinner gagner.
Bon,
je vois un autre.
C'est un pronostic, ça y ressemble. Hein.
Ouais.
Maintenant, l'autre, c'est qui? Il faut le dire.
J'aimerais mon fils, mais bon, à mon avis, c'est un peu trop loin, c'est dommage. Mais je pense qu'Alcaraz, il a les dents longues,
On rappelle que c'est le seul grand chelem qui manque à son palmarès.
Et il n'arrête pas de le dire en conférence de presse. Donc c'est peut-être... Voilà, ça serait bien pour relancer la saison qu'on se retrouve avec les cartes un peu remélangées, parce que si Sinner refait encore la même saison...
On rappelle quand même que les quatre grands chelems de l'an dernier ont été remportés deux par Alcaraz, deux par Sinner. Oui. Donc il y a quand même, qu'on le veuille ou non, une petite domination de ces deux joueurs.
Oui, puis après, ça reste du sport. Hein. On peut avoir une belle surprise.
Alors donc, on l'a dit, on va avoir normalement, on l'espère, un superbe Alcaraz Djokovic demain soir. Et ouais. Puis le vainqueur prendrait Sacha Zverev en demi. Donc là aussi, grosse demi-finale.
Oui, la grosse demi.
Cette partie de tableau est quand même très, très lourde, très chargée.
Et Zverev joue Paul, je crois. Donc c'est pas gagné non plus, parce que c'est des garçons qui sont, comme on dit dans le jargon, chaud braise sur ce tournoi-là. et qui sont pas trop fatigués parce qu'ils gagnent assez facilement leurs matchs. Donc on a vu Paul gagner en 3 petits sets, il a concédé que 3 jeux, donc ça c'est à ce niveau-là, ça aide.
Bon, Davidovich Fokina avait un peu pioché oui. dans les réserves mmh. depuis le début du tournoi quasiment.
Hein, oui, oui, là il était...
quasiment que des matchs en 5-7.
Il avait plus d'essence, ouais, il était à la fin.
Et on a aussi donc parlé de cette jeune garde. Il y a un joueur dont on n'a pas parlé, qui a été la coqueluche de ce début de tournoi, c'est le Brésilien João Fonseca,
oui.
qui est sorti des qualifs, qui venait de gagner en décembre, enfin début janvier, le Masters Next Gen, donc des jeunes joueurs, qui a quand même fait un sacré tournoi.
Bah, qui sort une grosse tête de série. Derrière, il perd vraiment... pense à l'expérience parce que
sur Sonego.
Oui, et Sonego là il vient de gagner en 3-7, donc c'était quand même un client, mais il se laisse un petit peu emporter, je pense, par le public qui était acquis à lui, et c'était quelque chose. Il vient juste d'avoir 18 ans.
C'est ça, il est très jeune.
Je pense que ça.
C'est... Et il a surtout une progression extraordinaire puisqu'il était quasiment 200e là, il y a un an. Voilà, il va rentrer dans les 120 là. 100,
oui, mais il fait la même progression un peu que Français l'année dernière, qui était venu même au tournoi chez nous à 242 et qui finit 30e quand même mondial.
Voilà, un petit Péricard pour le nommer.
Ouais. Voilà, j'ai du mal à expliquer. qui n'a pas eu de chance puisqu'il a joué Gaël Monfils au premier set, même s'il avait les armes pour gagner, on voit que l'expérience quand même ça compte parce qu'il est rentré un peu dans le jeu de Gaël, comme Taylor Fritz est rentré dans le jeu de Gaël, et là je regardais le score, je pense que
ils sont
Shelton,
à 6 partout, sans tie break.
Ouais, il a toujours la même tactique, il fait jouer et après il va essayer de mettre son petit coup de boost.
Donc vous pensez que ça peut tenir jusqu'au bout?
J'espère pour lui.
Ça serait incroyable, un premier grand chelem à 38 ans.
Ben, c'est surtout que c'est sa meilleure performance à Melbourne. Il attend d'être 38 ans, mais bon, il a joué, il a quand même gagné la Nouvelle-Zélande. Je lisais un article sur Constant Etienne qui s'est entraîné avec lui, il disait qu'il était injouable.
C'est ça. Sur le tournoi de préparation, effectivement, ils se sont préparés ensemble et Constant a dit qu'il était absolument injouable.
Et quand on a Taylor Fritz qui vient de faire les deux dernières finales, que ce soit à l'US Open ou au Master, et qui dit qu'il est injouable, je pense que voilà. Après, c'est le physique, hein, son âge, c'est la récupération, c'est... là il fait chaud. Donc,
alors il ne fait pas si chaud, il ne fait pas aussi chaud que d'habitude à Melbourne où on avoisine souvent les 35-40 degrés, là il fait beaucoup moins chaud.
Parce que... Je crois, ouais, hier c'était la journée la plus chaude et aujourd'hui on est...
30-32, donc c'était assez acceptable. On va dire un petit mot chez les femmes quand même, où pour l'instant Sabalenka, Swiatek et Goff déroulent assez tranquillement, ouais. Hein, c'est les trois qui dominent le circuit. La petite note qu'on peut prendre en compte, c'est que Paolini, qui avait fait une grosse saison l'année dernière avec deux finales de Grand Chelem, a perdu. Contre Elina Svitolina, ouais. Madame Monfils,
qui vient encore de se qualifier. Donc,
cet après-midi, effectivement, cet après-midi, pour les quarts de finale.
Donc j'espère que là, pour une fois, c'est elle qui a montré le chemin à son mari.
Donc on va voir si ça marche dans les deux sens, parce qu'il y a deux jours, c'est lui qui a montré la voie. Donc on va voir si Elina Svitolina et si Gaël Monfils va suivre la voie de son épouse.
Mais après, dès qu'on arrive sur les demi, c'est quand même un autre niveau. Donc... C'est vrai que...
Et on sait qu'effectivement, les top joueurs commencent à resserrer un petit peu le jeu. À partir des quarts de finale. Certains sont un petit peu, je ne vais pas dire distraits, mais en tout cas peut-être un petit peu moins sérieux sur le début du tournoi, même s'ils savent qu'il ne faut pas trop laisser de jus. Mais par contre, effectivement, après, il n'y a plus de place pour le hasard.
Je trouve qu'avec les années, on s'améliore, parce qu'avant, c'était vraiment des scores... fleuve jusqu'au 8e. Là, quand même, il y a une sacrée bagarre. On voit que Coco Gauff, ça fait deux fois en 3-7. Donc à part Swiatek et
Sabalenka.
Et Sabalenka qui se balade un peu. Et encore, Sabalenka, deux fois, est menée. Elle revient un peu. Donc c'est bien. J'espère qu'on aura, des beaux matchs qui vont arriver. Et chez les filles, peut-être une surprise. Même si Sabalenka, elle a la pression de la...
Vous risquez un pronostic, puisque vous l'avez fait chez les hommes. Faut le faire chez les dames.
Je sens que Swiatek, elle a quand même les dents longues. Et, et bon. Elle est assez concentrée sur tous ses matchs.
Allez, c'est noté sur le tableau noir. Swiatek chez les dames et mon fils chez les messieurs. On va passer, messieurs, à l'actualité de la semaine. L'heure tourne et on va commencer par la Ligue 1. Avec le PSG qui continue son petit bonhomme de chemin en championnat avec une victoire à Lens ce week-end de 2-1. Pas avec la manière, mais en tout cas le résultat est là. Jean-Louis Guépy.
J'ai pas suivi le football, okay. Olivier. Bon. Je suis concentré
sur le golf et le tennis.
Sur le golf et le tennis, sur ma position dans mon canapé et sur la monopolisation de la télécommande.
Stratégique.
Et je gère les conflits intrafamiliaux.
Sébastien.
Oui, j'ai suivi. Bah déjà, après, ils ont eu vraiment du mal en Coupe de France quand même contre une Nationale 3 qui a super bien joué.
Très bien,
ça,
absolument.
On peut rien leur enlever. Le coach avait bien ficelé son truc.
Espali, pour le coup, on va les nommer.
Après, derrière, ils vont gagner à Lens. Lens, on sait que c'est quand même un client.
C'est jamais facile de gagner à Bollard, quoi.
Ouais. Je trouve que... Ils montent un peu en puissance. Ils manquent sûrement... le Mbappé leur manque. Devant ça monte de finition, mais après ce qui est bien dommage, c'est qu'à chaque fois ils prennent un but. Bon, et on sait que mercredi là ça va être un petit
c'est
peu.
C'est ça, c'est ce que j'allais dire. L'heure de vérité, c'est effectivement jeudi matin pour nous avec le match crucial contre Manchester City, ouais, en Ligue des Champions.
Qui viennent d'en passer 6 à.
Pour rester dans les qualifiables possibles, dans les 24. Qui vont se qualifier pour la suite de cette compétition. Malgré tout, le PSG a fait la bonne opération de ce week-end en championnat, puisque Marseille n'a pas réussi à s'imposer ce matin à domicile contre Strasbourg. Donc ils sont désormais à 9 points du PSG, et Monaco est tombé à la 4e place en gagnant pas ce week-end, puisque Lille continue, lui, en revanche, sa série d'invincibilité. Il prend la 3e place sur le podium. 21 matchs sans défaite pour les Lillois consécutivement. Genesio a vraiment mis sa patte sur cette équipe.
Ah oui. Je pense que là, ça fait vraiment la différence, parce qu'on a vu deux visages de Lille. Ils font une bonne Ligue des Champions. Ils font derrière un bon championnat. Ils sont avec une équipe qui est quand même, sur le papier, pas si extraordinaire que ça. Et je trouve que voilà, l'entraîneur là, il a vraiment mis sa patte comme tu le dis, et que ça peut être, je pense que Marseille a de quoi avoir peur sur cette fin de saison.
Ils ont encore 5 points d'avance malgré tout, les Marseillais, sur les Lillois, mais le championnat est encore long, vient juste de basculer dans les matchs retour. On va parler rugby maintenant, avec donc la 4e journée de la Champions Cup. Alors avec des scores fleuves dans la poule 1, Toulouse et l'UBB qui déjà dominaient largement cette poule ont encore passé des scores fleuves à leurs adversaires. Toulouse a battu Leicester 80-12 avec 12 essais, et l'UBB a battu les Sharks 66-12, 6 essais de Damien Penaud. Donc Michel Quintin, ça vous inspire quoi ces scores totalement presque irréel en rugby là.
Ouais, c'est étonnant parce qu'avec ce niveau-là, d'avoir des scores comme ça, c'est étonnant. Maintenant, ça veut dire que nos équipes tiennent la route. Quoi.
Alors nos équipes tiennent la route, effectivement, puisque dans la poule B, La Rochelle s'est aussi qualifiée pour les huitièmes de finale malgré sa défaite à Trévise, et que Clermont s'est imposé dans le temps additionnel à Bristol et est donc aussi qualifié. Finalement, les seuls clubs français qui ne se sont pas qualifiés dans cette Champions Cup, c'est les deux clubs franciliens, le Stade Français dans la poule C et le Racing dans la poule D. Et ça nous donnera donc des huitièmes de finale très intéressants en Champions Cup, puisque Bordeaux-Bègle, La Rochelle, Toulon et Toulouse sont dans la même moitié de tableau et pourraient se rencontrer dès les quarts de finale entre l'UBB et La Rochelle, et un Toulon-Toulouse qui pourrait être très sympa aussi en quart de finale. Et dans l'autre moitié de tableau, on a Castres et Clermont qui sont aussi qualifiés, qui pourraient se retrouver en quart de finale, même si aujourd'hui donc Toulouse et l'UBB, qui pourraient se rencontrer en demi, font pour l'instant figure de gros favoris parce qu'ils ont dominé cette phase de poule de manière importante. Est-ce que le fait de retrouver ces équipes dans la même moitié de tableau n'est pas un petit peu choquant? On est un peu surpris de cette organisation des Champions Cup où il y a par exemple 6 équipes dans chaque poule et que 4 journées de championnat. Pourquoi on ne fait pas la 5e qui permettrait à tout le monde de se rencontrer? Le tirage qui remet des équipes de la même poule dans la même moitié de tableau. Enfin voilà, on est un peu surpris, mais parfois le World Rugby est assez incompréhensible. Un petit peu de biathlon maintenant, messieurs. On va prendre le frais sur les pistes enneigées. L'équipe de France, alors les équipes de France, aussi bien masculines que féminines, sont en pleine forme depuis le début de la saison. Donc ce week-end à Ruhpolding en Allemagne, les hommes se sont imposés en relais devant la Suède et l'Allemagne. Et chez les dames, les Françaises terminent troisième derrière l'Allemagne et la Norvège. Il y a une telle densité de biathlètes français que Lou Jean Monod, qui est quand même deuxième au classement de la Coupe du Monde, a été dispensé de relais. Ça vous inspire quoi, Jean-Luc Guépy, cette densité de biathlètes français au plus haut niveau à concurrencer la Norvège, l'Allemagne, les grands pays de biathlon? Alors même si on est devenu aussi un grand pays de biathlon au fur et à mesure du temps, on n'est pas un pays de biathlètes, enfin, c'est pas des superstars comme c'est le cas en Allemagne ou en Norvège par exemple.
C'est la preuve qu'ils utilisent bien le temps off-hiver, c'est-à-dire qu'en fait, ils savent se préparer. Et moi, ce qui me fascine dans ce sport, c'est la faculté à produire des efforts physiques et à faire des 20 sur 20 en tir derrière. Et pour ceux qui font un peu de tir, quand vous avez le cœur qui tape à 160 ou à 180, il ne faut pas bouger, ils tirent couchés, ils tirent...
Et les doigts un peu gelés.
Les doigts un peu gelés, enfin, c'est phénoménal, voilà, c'est des sports qui sont un peu loin du Pacifique, mais qui... Je crois qu'il faut avoir un très grand respect pour ces activités-là qui sont, on va dire, ce sont des monstres de conditions physiques en tous les cas.
Messieurs, la fin de l'émission approche. On dira juste un petit mot des championnats du monde de handball où l'équipe de France a bien démarré son tour préliminaire avec 3 victoires tranquilles contre le Qatar, le Koweït et l'Autriche. Et on attend maintenant les performances dans le tour principal. Et on sait que les Jeux Olympiques ratés de cette équipe de France font qu'ils ont les dents très très longues sur ce championnat du monde. On va passer à vos coups de cœur, messieurs. On va commencer par vous, Michel Quintin.
Oui, alors avant le coup de cœur, j'aurais une petite pensée quand même pour Martial Bonne, parce que je l'ai appris en arrivant dans le studio, là, son décès. Et...
À qui on dédie cette émission, d'ailleurs.
Ben oui, parce qu'il a été porte-drapeau des cagoux à de nombreux Jeux du Pacifique et mini-jeux, avec Anne-Marie Moreau notamment. Donc une pensée pour lui et pour tous ses proches, sa famille. Et puis donc pour les coups de cœur, moi, bien sûr Charlie Dalin sur vainqueur du Vendée Globe, mais également il y a une autre épreuve qui a eu lieu à Auckland, le CLGP qui a eu lieu à Auckland ce week-end, et une belle victoire des Australiens. Voilà, c'est mon coup de cœur.
En terre néo-zélandaise.
Voilà, donc voilà, belle épreuve.
Jean-Louis Guépy.
Alors moi, je n'ai pas de coup de cœur, mais j'ai un quiz.
Ok, il faut aller très vite.
Pour l'équipe...
Pour Michel et pour Sébastien.
Voilà. Daniil Medvedev, notre joueur russe, qui visiblement s'est très mal comporté dans ses deux premiers tours, en cassant sa raquette sur le filet, en cassant la caméra de filet. Il y a un paquet de bonbons à gagner. Quel est le montant de l'amende?
100 000 $.
Moi, je l'ai. 76 000 $.
Bonne réponse d'Olivier.
Pour un paquet de bonbons, je suis prêt à jouer. allez, un petit coup de cœur malgré tout, hormis Medvedev qui casse tout.
Ben, le petit coup de cœur, c'est qu'on se régale tous les ans à cette époque, suite à notre tournoi de Nouméa. On suit nos joueurs et on est tendu tout le mois de janvier sur l'Australian Open de tennis. Et c'est vrai que couplé avec le golf, ça donne des grandes soirées de sport avec la télécommande.
Sébastien Maldovini, votre coup de cœur?
Allez, moi, mon coup de cœur va être pour deux jeunes cagous. Donc, il y en a un papa qui est là, qui ont participé, parce qu'on sait qu'il n'y a pas trop de comment ça s'appelle, de sport en Calédonie en début d'année. Et donc là, c'est Hugo Koch et Jules Guépy qui ont participé au championnat amateur d'Australie, qui sont déjà qualifiés. Je crois que c'était la première fois que des Calédoniens passaient le cut. Et Jules finit dans les 30e et Hugo dans les 60e. Donc félicitations à eux. Et j'espère que voilà, ils sont prêts. Eh ben, il n'y a pas de golf au mini-jeu pour Michel.
À eux aussi, on souhaite une belle saison sportive 2025. Merci à tous les trois d'avoir été présents ce soir. Et je vous souhaite donc une belle semaine de sport à tous.
Merci beaucoup.
Merci.
Pour vivre le meilleur du sport, les plus grands matchs, les exclusivités, c'est seulement avec les offres Canal+. Canal+, le partenaire d'une semaine sportive sur Radio Rythme Bleu.